Bonsoir, vous êtes bien dans la causerie et autour de la table, ce soir, Jean-Yves.
Bonsoir.
Max.
Salut. Bonsoir.
Stan.
Bonsoir.
Fabien.
Salut.
À la technique, Clara.
Coucou.
Et Jonathan qui a fait l'ouverture.
Voilà, voilà.
Eh bien, alors ce soir, avant de lancer le témoignage d'Ambre, on vous rappelle les contacts de la causerie. Donc il y a le blog, comme toutes les semaines on vous le rappelle, hein, c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et on a aussi un mail, c'est lacauseriecanu@gmail.com. Et on a aussi un espace sur le réseau social qu'on ne nommera pas ce soir. Et donc si vous voulez réagir au témoignage, eh ben, c'est par ce biais-là. Eh bien, on va pas parler plus longtemps et puis on va lancer le témoignage d'Ambre. Bonne écoute. Causerie. Alors ce soir, une causerie hors les murs et enregistrée, parce que ce soir, eh ben, comme on a déjà pu le faire dans la causerie, on va avoir un témoignage ce soir, et c'est le témoignage de Ambre qui est avec nous. Eh ben, Ambre, je propose que tu commences peut-être déjà par te présenter.
Bonsoir.
Du coup, je m'appelle Ambre ce soir. J'ai 35 ans, je suis originaire de la région parisienne. Je viens d'une famille de 3 enfants. Je suis la plus jeune et j'ai une différence d'âge de 7 et 8 ans avec mon frère et ma sœur. Mon père, que j'appelle aujourd'hui mon géniteur, je le qualifierais de tyrannique, manipulateur, violent physiquement et verbalement. Pour citer des exemples, enfin, j'avais pas le droit de, enfin, je devais rendre compte de mon emploi du temps à l'école, sur les horaires d'entrée, de sortie, et donc aussitôt les cours finis, je devais rentrer chez moi et 5 minutes de retard, et c'était tout de suite l'interrogatoire. Pas le droit de voir mes copines en dehors de l'école. Pour les garçons, il fallait même pas en parler, j'avais pas le droit de leur parler, quoi. Et quand je faisais une bêtise, enfin, ce qu'ils qualifiaient d'être une bêtise, ben, j'avais droit à des corrections à coups de ceinture. Et par contre, pour mon frère, c'était un peu plus poussé, ça pouvait aller au coup de poing. On peut dire aussi, enfin, je peux dire que c'est aussi quelqu'un de pervers. J'ai en tête une bêtise que j'ai faite. J'avais en fait joué par téléphone à des jeux, appels surtaxés. Et donc, prise dans le jeu, je ne m'étais pas rendu compte du temps passé. Et la note après est arrivée et elle était un petit peu salée. Du coup, correction, coup de ceinture. Et puis, pour éviter que je recommence, il m'a menacé d'un jour d'inviter mes oncles, d'acheter un gâteau pour l'événement, de me faire monter sur la table les pieds dans le gâteau, toute nue, et de me battre à coups de ceinture. Et de permettre à mes oncles de faire de même. Voilà, donc je pense que j'ai posé un petit peu le personnage.
Et le cadre familial, surtout.
Et ma mère, dans tout ça, femme soumise et complètement effacée, laissait faire et ne disait rien la plupart du temps, en fait.
Si tu as tenu à témoigner ce soir avec nous, et si on est venu à faire ce témoignage, c'est aussi parce que tu es une survivante, comme on dit, et que déjà, on va définir ce qu'est le terme survivante, pour les gens qui ne le savent pas. Donc clairement, c'est des personnes qui ont été violées dans leur vie, et en l'occurrence pour toi, c'est lorsque tu étais enfant.
Tout à fait, oui. Et violée par mon père, mon géniteur, entre l'âge de 11 à 14 ans, ça correspond en fait au moment où je suis devenue pubère. J'avais mes seins qui avaient commencé à se développer, j'avais mes premières règles. C'était pour lui le moment de faire ce qu'il avait envie de faire de mon corps. Et donc, à chaque fois qu'il en a eu l'opportunité, de se retrouver seul avec moi, du moins, il n'a pas hésité.
Tu disais que c'était entre l'âge de 11 et 14 ans. Très clairement, tu dis qu'il y avait un passage pour ton géniteur qui était pour lui une sorte de droit à le faire. Tu dis ça parce que dans ta famille, il y avait aussi des gens qui ont été, que tu supposes avoir subi les mêmes choses, ou tu sais qu'ils ont subi les mêmes choses ?
Oui. Enfin, dans ma réflexion après, il y avait des... J'ai réanalysé des faits, des attitudes, puis des scènes qui, à l'époque, je devais avoir 7 ans et... Oui, 7 ans. Je ne savais pas identifier, en fait, à cet âge-là. Et j'ai, par la suite, pensé que ma sœur également avait été victime. Et elle me l'a confirmé par la suite.
Et à peu près au même âge que toi, finalement, mais pour elle, du coup, plus tôt que toi.
Voilà, tout à fait. Quand il a commencé, j'avais 11 ans. Et à l'époque, je ne savais pas, j'avais pas du tout de notion de sexualité, en fait. puisque déjà quand deux personnes s'embrassaient à la télé, je devais détourner le regard ou alors on m'envoyait faire quelque chose d'autre.
C'est une éducation assez puritaine en fait.
Oui, c'est ça, tout à fait. Du coup, je n'ai pas compris. Et bon, une fois qu'il a terminé son affaire, eh ben, il a conclu en disant « Tu es ma préférée, ça doit rester entre nous, c'est notre petit secret et je te donnerai tout ce que tu veux. » Donc à partir du moment où il me demandait de garder le secret, j'ai compris que c'était quelque chose de grave en fait. Mais pourtant, j'ai gardé le silence. Parce que d'une part, pour moi c'était un tyran, donc j'avais peur en quelque sorte. Et puis également, je me suis dit que en parler à ma mère ne servirait pas à grand chose, puisque étant soumise et totalement dépendante, que ce soit au niveau de, enfin pas du tout autonome en fait, elle ne fait rien toute seule. Je n'ai pas imaginé à un seul instant qu'elle puisse le quitter et qu'elle puisse prendre ses trois enfants sous le bras et voilà, et nous continuer à nous élever. Donc, j'ai préféré me taire pour la protéger, en quelque sorte, pour qu'elle ne souffre pas. Et donc, c'est moi qui ai pris le rôle de l'adulte qui protège sa mère. Concernant une aide extérieure, non, c'est pour moi... Je ne l'ai pas envisagé non plus, puisque déjà j'étais séquestrée. Mais également, mon géniteur avait à l'extérieur un autre visage. Il était sympathique aux yeux de tout le monde, toujours de bonne humeur, un côté charmeur également. Donc c'était impensable qu'il puisse avoir un tel comportement à la maison en fait. Donc voilà. Donc voilà, j'ai préféré garder le silence.
Et en même temps, je me dis, c'est aussi toute la, je sais pas comment dire, c'est il était suffisamment malin, je mets entre guillemets tout ça, mais pour instaurer justement aussi une ambiance de contrôle total en fait. Enfin, je pense que même peut-être les rares sorties où tu étais à l'extérieur, elles étaient quand même toujours sous sa houlette en fait. Et que, de ce fait, comment se retourner vers quelqu'un d'extérieur quand finalement, de toute façon, le regard de l'oppresseur est toujours là, quoi. Donc c'était difficile de faire autrement en même temps, quoi.
Oui, voilà. Tout à fait. Et bien, du coup, c'est... Oui, donc j'ai gardé le silence et en sachant que c'était quelque chose de grave et... c'est de là qu'est née une certaine culpabilité, de garder pour soi quelque chose qu'on ne devrait pas. Mais on se dit à ce moment-là je me suis dit que j'avais pas le choix en fait. Et quand après j'ai vraiment compris la gravité des choses, ça s'est additionné avec la honte et qui m'a, j'ai traîné ces deux sentiments très 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 longtemps.
C'est-à-dire que Pour être clair et que les gens comprennent un petit peu le, je pense que toi donc t'étais enfant clairement entre 11 et 14 ans, mm-hmm. Et à partir de l'âge de 11 ans finalement tu vas vivre avec ton bourreau, mm. Et en protégeant l'épouse de ton bourreau, c'est-à-dire ta mère, et tu vas dès 11 ans avoir conscience de ça en fait. Mm. C'est ça qui est important, c'est que les gens parfois se disent il y a une mémoire traumatique qui efface les choses, mais pas du tout en fait. Toi t'avais confiance que finalement tu prenais sur toi.
Voilà. Du coup oui, ça a développé un sentiment, une volonté de tout contrôler, de mes faits, mes gestes, ma parole. J'ai rapidement développé une personnalité d'emprunt, je dirais. Donc à la maison, j'ai pas vraiment changé, si ce n'est que je suis quand même devenue un peu plus silencieuse. Mais j'ai toujours, je suis restée bonne élève, donc ça suffisait. C'est ce qu'on me demandait en fait, pas plus. Et finalement, le silence, me taire, rester à ma place, ça convenait également. À l'extérieur, pareil, j'étais plus discrète, effacée. Mais par contre, J'étais plutôt attentive, ouverte sur les autres, à écouter, à intervenir, aider. Et donc, oui, je me conformais en fait à ce qu'on attendait de moi, enfin ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et ça demande vraiment une certaine énergie de tout contrôler, de tout calculer. Voilà, mais c'est nécessaire pour se protéger, protéger le secret en fait.
Et pour survivre.
Et pour survivre également, oui.
Enfin, je crois que c'est ça aussi. Enfin, si on, enfin, le silence, c'est aussi un mode de défense, quoi. Enfin, c'est l'hyper contrôle, c'est aussi se défendre. Enfin, c'est essayer de survivre. Ouais, je crois que c'est vraiment pas faux, quoi.
Et aujourd'hui, tu as 35 ans. Est-ce que tu dirais que cet hyper contrôle, cette façon de se protéger, tu es arrivé à le casser, à le détruire, ou est-ce que le chemin est en cours?
Le chemin est en cours. C'est oui, c'est vraiment oui, un aspect de ma vie, enfin, dont je voudrais me défaire. C'est un côté rassurant, mais envahissant. Vouloir tout contrôler, tout gérer, enfin, ça peut être étouffant, je pense aussi au niveau familial. Et enfin, voilà.
Et donc tu disais que donc tu contrôlais tout à la maison, que tout était aussi contrôlé par ton géniteur, parce que finalement ton contrôle répondait à son contrôle à lui au final, c'est lui régentait toute la vie de toute la maisonnée. Mais tu disais que tu avais une différence d'âge avec tes frères et sœurs, donc ils sont partis de la maison avant toi, du coup. Et comment tu l'as vécu, c'est-à-dire est-ce que tu t'es dit ça va être encore pire? Ou est-ce que là, t'as trouvé des échappatoires à ce moment-là?
En fait, quand ils sont partis, ça s'était déjà arrêté. Puisque ça s'est... Enfin, j'ai mis un stop à l'âge de 14 ans. Et bah, comment ça s'est arrêté? C'était donc une nuit. Enfin, j'étais toute seule à la maison avec lui. Parce que ma mère et ma sœur étaient parties en pèlerinage. Et puis moi, ça, bon, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Enfin, et c'était l'époque du brevet des collèges et j'avais prétexté des révisions pour ne pas y aller. Mon frère, je pense qu'il travaillait de nuit à cette époque-là. Et donc, du coup, un oncle était passé ce soir-là et bon, il y avait une soirée arrosée entre mon géniteur et lui. J'étais partie me coucher et bah, quand mon oncle est parti, mon géniteur est venu dans ma chambre, m'a réveillée, bah, dans l'intention de me violer, mais là, je l'ai repoussé. Il a insisté, je l'ai repoussé encore une fois, et je lui ai dit que s'il me touchait une nouvelle fois, je le dénoncerais, je dirais tout à ma mère. Il a hésité un petit peu, et puis il a dû voir que j'étais sérieuse, et donc là, il a arrêté, et ça a été la dernière fois qu'il m'a touchée.
On va quand même rappeler là maintenant pourquoi tu es sous pseudo et pourquoi ta voix est un peu étrange à la radio ce soir. C'est parce qu'en fait, il y a une procédure qui est en cours et que du coup, on reviendra dessus, mais que c'est pour ça que tu es obligé de témoigner sous pseudo, donc Ambre, et avec une voix légèrement déformée, que les gens aussi comprennent ben, les tenants et aboutissants de cette interview.
Et en fait, on peut peut-être avancer dans ton témoignage, dans le sens où en fait, il y a quand même une notion que je pense que tu as faite comme beaucoup de survivants et de survivantes, c'était un mur de silence que tu as brisé à un moment donné, en fait. Enfin, il y a une prise de conscience, en fait, enfin, où on réalise qu'on a été abusé. Que ce qui s'était passé, enfin, n'était pas normal, etc. Et que je pense que pendant un temps, tu l'as peut-être, je sais pas, enfin, tu veux peut-être nous en dire plus un peu sur cette notion de déclic ou de prise de conscience, enfin, je sais pas comment tu peux l'appeler d'ailleurs.
Déclic, oui, déclic, ça me va bien. En fait, donc dès lors où j'ai dit stop à mon géniteur, j'avais quand même de la colère en moi Et bah là, j'ai commencé à m'opposer à lui, à contourner ses interdits, à mentir pour pouvoir avoir des instants, des petits instants de liberté. Et donc, oui, enfin, vraiment une grosse colère en moi, mais que, bon, bah, que j'ai essayé d'étouffer, notamment en partant, enfin, en m'éloignant de lui dès que j'en ai eu la possibilité. Donc, une fois que j'ai fini mes études, je suis partie et je me suis installée sur la région lyonnaise. Et progressivement, bah, j'ai diminué mes visites à mes parents. Et c'est au moment de ma première grossesse, en fait, où j'ai fait des cauchemars à répétition dans lesquels ben, je me voyais me battre physiquement avec mon géniteur. Et c'était toujours en lien avec ma mère que je protégeais, en fait. Alors, donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose quand même. Finalement, j'ai laissé passer. Et bah, 3 ans après, nouvelle grossesse, et voilà, les cauchemars sont revenus, plus violents, plus fréquents. Et là, je me suis dit, bah, non, faut que je parle. Puisque jusqu'à maintenant, j'avais dit à personne, même pas à mon conjoint. Et à chaque fois que justement, il devait y avoir des réunions familiales, enfin, il me sentait mais vraiment sur le point d'exploser, énervé contre mon géniteur, et il n'arrivait pas à comprendre. Et un jour, ben voilà, je lui ai dit ce qui s'était passé. Ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris 8 ans à lui avouer, mais voilà, je lui ai dit. Et là, ça a été une première libération.
Your autograph would
c'est toute la... C'est qu'il y a une libération de quelque chose que tu avais enfoui, quoi. Enfin, il y a une forme de... Est-ce que tu avais cette conscience, effectivement, de ce qui s'était passé? Ça, je crois qu'on l'a vraiment bien saisi. Mais est-ce que avec le temps qui passe, est-ce que on met pas un peu de poussière dessus, enfin on met le tapis dessus et on se dit bon ben on va continuer d'avancer et puis en se disant on n'en parle pas parce que bon.
Non ben j'avais toujours oui enfin peur que ça ressorte par une attitude, un geste. Enfin ça pendant très longtemps justement j'ai évité de boire de l'alcool parce que j'avais peur de perdre le contrôle justement et de dire quelque chose qui que je ne voudrais pas dire, puisque j'avais en exemple mon géniteur, justement, qui, quand il buvait, disait un peu de tout, enfin, racontait ses relations extra-conjugales, en présence de ma mère, à côté de ses enfants, il racontait au public. Donc je me suis dit, faut que j'évite de faire comme lui, voilà. Donc, l'alcool était évité. Et j'ai perdu le fil.
Mais, pour essayer de rebondir et de recadrer, en fait, donc tu disais que tu étais dans l'hyper-contrôle depuis le départ. Donc, tu contrôlais toute ta vie. Et tu avais l'impression, finalement, peut-être quelque part, que ce contrôle, c'est pour ça que tu disais je ne buvais pas d'alcool parce que je ne voulais pas perdre le contrôle, te protégeait et finalement protégeait aussi tes proches. De ce que tu avais vécu enfant et finalement presque comment dire, c'est comme si ça te concernait plus que toi alors qu'en fait pas seulement parce que tu disais que c'est ta deuxième grossesse qui a été un déclic. Est-ce que c'est le fait finalement que ton géniteur devienne de fait le grand-père entre guillemets de tes enfants qui va te faire réagir du fait que ça tu peux pas contrôler à ce moment-là et qu'il faut faire quelque chose?
Oui, j'ai pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, mais c'était pas encore vraiment bien arrêté. Enfin, je savais que je devais protéger mes filles, qu'elles ne soient pas également victimes. Mais je voyais encore à l'époque mon géniteur. Ensuite, j'ai parlé à des amis. Et ensemble, ils m'ont invité à une conférence tenue par Mélusine Vertelune, qui présentait son livre Ni silence ni pardon, l'inceste, un viol institué. Et là encore, ça a été une avancée dans la prise de conscience. Et en l'écoutant, j'ai pris conscience qu'il fallait que je brise le silence et que je fasse éclater cette mascarade de familiale, en fait. Et puis, oui, me taire, ça faisait que renforcer l'œuvre de mon bourreau. Donc, ça a été un autre pas vers ma prise de conscience. Et puis, quelques mois après, c'était les fêtes de fin d'année. Donc, j'y ai revu mon géniteur. Et à un moment donné, il s'est approché de moi et m'a prise par les épaules, m'a demandé comment j'allais, j'avais l'air différente, distante, tout en portant son regard sur ma poitrine. Et donc là, j'ai su qu'en fait, il avait toujours, qu'il n'avait pas changé. Et puis plus tard, en fait. En parlant de ma nièce, d'une de mes nièces, la fille de ma sœur, il disait elle a bien changé. Oh, elle commence à devenir bien grande. Et donc, pour moi, les mots ont résonné. Et voilà, ma nièce avait 11 ans. Et je me suis dit, il faut que je la protège parce que je pense que ce sera sa prochaine victime, en fait, si je laisse faire. Et c'est à partir de ce moment que j'ai coupé tout contact avec mon géniteur. Depuis, je ne l'ai plus revu et plus au téléphone. Et là, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais mettre en place pour déjà, enfin, fallait déjà que j'en parle à ma mère, mon frère et ma sœur. Et donc, ça a pris un peu de temps, ça a pris quelques mois supplémentaires. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir au fait. Et c'est là que je me suis rendu compte, comme je disais au début, que c'était pas possible que je sois la seule victime. Et en analysant des scènes, des comportements, j'avais pas de doute que ma sœur était également victime.
Et du coup, tu disais que tu as voulu commencer à en parler. Ça revient à briser le silence, comme tu disais. Donc, c'est la première étape et qui est peut-être même quelque part l'une des plus importantes, c'est-à-dire de dire les choses et de montrer du doigt le bourreau. Est-ce que ça s'est passé comme tu t'y attendais? C'est-à-dire quand t'en as parlé à ta mère ou à ta sœur, est-ce que leur réaction était celle que tu espérais, ou du moins quelle réaction tu espérais et quelle réaction elles ont eue finalement?
Alors, je pensais que ça allait mettre fin à mes relations avec ma famille, puisque je voyais vraiment les comportements lors des réunions de famille, et tout le monde avait l'air de bien se porter, en fait. Tout le monde avait l'air d'oublier le passé, mais pour ma mère, le présent, encore. Et donc, je me suis dit, non, je vais être le vilain petit canard comme je l'ai déjà été par le passé. Et je m'attendais vraiment à ce que qu'on me dise, tu racontes n'importe quoi, tais-toi, et voilà. Donc, je m'attendais vraiment à couper les ponts. Et donc, j'ai été voir ma mère. J'ai fait le déplacement en région parisienne. J'ai dormi la veille à l'hôtel pour toute une préparation. Et donc, elle m'a accueillie. Et on a commencé à discuter. Donc, je lui ai raconté dans les moindres détails tout ce que j'avais subi. Et on était assis sur le canapé, ma mère à un bout, moi à un autre. Elle m'écoutait parler, et elle est restée tout du long d'un côté du canapé et moi de l'autre. Et quand j'ai fini de parler, elle m'a dit « ce sont des choses qui arrivent ». Voilà. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. C'était mitigé. Elle était désolée d'apprendre ça, de n'avoir rien vu, parce que je pense qu'elle ne se doutait pas des choses. Mais à aucun moment, elle a essayé de se rapprocher de moi, de me consoler ou quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment... pour moi, ça a été vraiment un choc. Moi qui l'avais protégée pendant très très longtemps, au moment où je me confiais et que... rien. Aucun geste. Ensuite, elle m'a encouragée à en parler à mon frère et à ma sœur pour me libérer, parce qu'elle sentait que déjà lui en parler, ça m'avait fait du bien. Et puis, là, on a fini de discuter. Et elle est retournée à ses feux de l'amour. Voilà.
Too young to realize what he wants from you tonight. Poor little girl, there is no one you can trust in the world, in the darkness of the night. What he's doing is a crime. Your mother denies that there's a problem. She's looking away. She don't wanna hear you cry. She will pray that it's over for a while. Sweet little child, you know nothing but a outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. Your mother denies that there's a problem. She's looking away. She don't wanna hear you cry. She will pray that it's over for a while. An ocean of silence is drowning your heart. What never should be will remain in the dark. Poor little girl, there is no one you can trust in the world. Of the night, what he's doing is a crime. Sweet little child, you know nothing about a cold world outside. You're too young to realize what he wants from you tonight. Your mother denies that there's a problem. She is looking away. She don't wanna hear you cry. She will pray that it's over for a while. An ocean of silence is drowning your heart. What never should be will remain in the dark. Sweet little child, you know nothing about a cold world outside. You're too young to realize what he wants from you tonight.
Et donc je suis rentrée chez moi et le lendemain, elle m'a rappelé en me disant « Bon, c'est bon, tu te sens mieux maintenant ?» Et par contre, ce serait bien que t'en parles qu'à ton frère et à ta sœur. Faudrait pas en parler à ta belle-famille, par exemple. Et puis, donc je lui ai dit que bah, non, j'en parlais, c'était pas, ça lui appartenait pas, en fait, que j'en parlerais à qui je voudrais. Et elle a sorti son... Elle m'a dit... En fait, elle m'a dit que... elle voulait pas que je parle parce que ça pourrait lui faire du mal. Et elle venait de se faire greffer d'un rein. Et qu'elle avait peur, en fait, que si mon géniteur finisse en prison, que ça la bouleverse au point de... de perdre son rein. Et là, je lui ai dit, bah, je t'ai appris que ton mari m'a violée, qu'il a probablement violé aussi ma sœur, et là, ça t'a pas fait un choc, et t'as pas craint de perdre ton rein, et là, tu veux m'empêcher de parler. Et je pense qu'en fait, c'était sa volonté de me faire taire qui m'a motivée à continuer de parler et d'aller jusqu'à porter plainte.
Et la notion, là, c'est pas du tout pour faire du pathos, hein, mais c'est quand même pour se recadrer dans les choses. C'est... En fait, on est lâché, trahi, etc., par les gens qui nous sont le plus proches, en fait. Et à ce moment-là, enfin, toi, comment tu te sens? Enfin, quels sont les outils qui vont peut-être t'aider, justement, à peut-être à pas sombrer, en fait, peut-être? Je sais pas, enfin, tu nous diras, mais qu'est-ce qui t'a aidé pendant ce moment-là? Parce que, enfin, je pense qu'on se sent très seul, quoi. Enfin, je sais pas, tu nous diras.
Oui. Maintenant, c'était vraiment un choc. Enfin, je m'attendais vraiment pas. Enfin, oui, c'était vraiment une réaction mitigée. C'est oui, je te comprends. Fais ce que tu veux pour aller mieux, mais en même temps, continue à me protéger, alors que j'avais fait ça jusqu'à maintenant. Donc, oui, enfin... Non, mais c'était vraiment... Oui, c'était un choc. Mais du coup, je me suis dit que j'allais me protéger et que j'allais pas parler face à face avec mon frère et ma sœur. Enfin, avec mon frère, c'était un peu plus compliqué vu qu'il il vit à l'étranger. Mais non, j'ai pas trouvé du coup le courage de leur parler face à face. Je leur ai envoyé des lettres, en fait. Et tout en m'attendant à des réactions un peu similaires. Et puis finalement, j'étais assez surprise parce que mon frère m'a appelé aussitôt et on a longuement échangé il était attristé d'apprendre tout ça et de voir que lui, en voulant fuir justement parce qu'il avait fui l'emprise familiale en partant à l'étranger, il n'avait rien vu et qu'il n'avait pas su me protéger. Et puis en même temps j'avais pas non plus parlé, donc il pouvait pas supposer des choses. Et on a discuté longuement et puis on a pu faire des recoupements. Quand il se faisait passer à tabac, la plupart du temps c'est que en fait c'était parce que mon géniteur le prenait pour un rival et que il voulait empêcher que mon frère ne se permettent de me toucher, de me violer. Donc voilà, on a fait, on a pas mal, on a beaucoup échangé avec mon frère et ça nous a, on avait commencé déjà à se rapprocher depuis quelques temps, mais là ça a quand même un peu renforcé nos liens, on va dire. Et quant à ma sœur, donc elle m'a également appelée en me disant que oui, j'avais vu juste qu'elle également, elle avait été violée et que probablement ça s'était arrêté pour elle au moment où ça avait commencé pour moi. Donc j'ai fait un peu le calcul et elle devait être quasiment ou alors elle devait être majeure. Donc je lui ai quand même dit, mais je lui ai quand même demandé si elle n'avait pas pensé que il pourrait me faire, que je pourrais être la victime aussi du géniteur. Et elle m'a répondu, non, qu'elle me voyait forte et qu'elle n'a jamais pensé que je pourrais laisser faire. Mais à l'époque, j'avais 11 ans, donc j'avais pas, entre guillemets, la force que j'ai maintenant. Donc non.
C'est peut-être aussi la difficulté, c'est que pour se protéger, elle aurait aussi dû, elle, parler. Et elle avait peut-être pas les mêmes choses que toi, mais d'autres difficultés à mettre sur la table les choses et de pouvoir les exprimer. Donc, du coup, elle s'est peut-être un peu rassurée avec cette image-là.
Oui, certainement.
En se disant, sans lui chercher d'excuses, mais le cheminement est assez, assez compréhensible, malheureusement.
Mais après, c'est la question que la première question que je me suis posée, mais. Je me suis demandé, je me suis interrogée, je me suis dit que c'était pas possible qu'elle ne soit pas victime. Mais oui, pourquoi elle n'a pas essayé d'avoir le même raisonnement et puis essayer en parler avec moi peut-être, je sais pas. Mais ça s'est pas fait parce que il a su,
Du vriller la tête.
oui, j'allais dire la museler, mais c'est pas le mot que. Verrouiller sa parole.
Et je pense qu'elle avait. Je pense qu'elle avait intégré l'oppression, en fait, que l'autre lui avait fait subir. C'est-à-dire que. Je pense qu'il y a aussi une notion de de désamour pour soi-même, en fait. Je me dis peut-être que elle s'était dit que vu ce qui lui était arrivé à elle, je sais pas comment on peut dire, mais une sous-merde, je sais pas, c'est pas le bon mot, mais et que toi forcément t'étais plus forte, quoi. Et sauf que non, en fait, l'emprise de destruction, elle était pour elle et pour toi aussi, quoi.
Et est-ce que tu crois que la réaction de ta mère vient du fait qu'elle n'arrive pas, elle, justement, à sortir du cercle vicieux instauré par ton géniteur finalement, parce que tu disais qu'il avait le contrôle sur toute la famille. Mmh. Et tu penses qu'encore aujourd'hui, elle le protège parce qu'elle en a peur ou parce qu'elle est soumise à lui, je sais pas quel mot employer.
C'est un mélange de tout. Elle en a peur parce que ben c'est quelqu'un de violent et qu'il a battu par le passé. Je l'ai vu la gifler, la bousculer, mais donc voilà, donc je suppose que ça s'est pas arrêté là. Et je pense que aujourd'hui encore, elle en a peur. Mais en même temps, vu qu'elle est complètement dépendante de lui, elle ne sait rien faire toute seule. Elle n'a pas le permis. Elle ne rédige aucun papier administratif. Et maintenant, elle ne travaille plus. Donc, elle ne voit pas d'autre solution que de rester avec lui, en fait.
Et du coup, toi, quand tu as décidé de briser le silence, est-ce que tu as fait appel à une association ou à des gens qui ont pu t'aider ou te guider un peu dans les démarches potentielles à faire ou des choses comme ça?
Oui, alors ça a été un long parcours, je dirais. Donc oui, ma décision était prise, je voulais porter plainte, mais je voulais savoir comment le faire, enfin, tout en me protégeant également du côté émotionnel. Et donc du coup, je suis passée par plusieurs biais. J'ai commencé par appeler le CFCV, le Collectif Féministe Contre le Viol. Et là, j'ai eu un peu de difficulté à les joindre. J'ai dû appeler, je pense, 3 ou 4 fois avant de tomber sur quelqu'un qui m'a répondu. Et donc là, après, l'accueil a été on va dire chaleureux. La personne m'a demandé de raconter mon histoire. Et donc ce que j'ai fait, et ensuite elle m'a donné des contacts sur la région lyonnaise pour que je puisse du coup me rapprocher d'une association d'aide aux victimes et qui pourrait m'accompagner dans ma démarche. Donc j'ai eu le nom d'une association, mais en me rendant sur place, j'ai constaté que l'association n'existait plus et que du coup leur liste n'était pas à jour. Donc j'ai rappelé pour le signaler parce que je me dis que c'est un peu important de le faire, de maintenir justement les outils à jour pour pouvoir aider au mieux les victimes, les survivants et survivantes. Et donc du coup elle m'a donné une autre adresse et donc voilà, j'ai contacté ensuite l'association d'aide aux victimes LEMA, où j'ai rencontré une juriste qui m'a énoncé les différentes possibilités que j'avais pour porter plainte. Donc je pouvais le faire soit en allant directement en gendarmerie, celle de mon domicile ou n'importe quel autre, ou alors écrire au procureur de la République, et ou alors de porter plainte également en se constituant partie civile. Mais bon, ça, j'ai pas tout cerné, j'ai pas compris tous les détails. Pardon. Donc du coup, je suis repartie avec mes différentes possibilités, le temps de réfléchir à tout ça. J'ai voulu prendre un autre avis, donc je me suis rendue cette fois-ci à une permanence juridique au palais de justice. Et là, j'ai rencontré un avocat qui m'a orientée vers un de ses confrères qui plaide au pénal. Et du coup, là, j'ai pris rendez-vous avec cet avocat. Au téléphone, c'était quelqu'un m'a paru très, très chaleureux, très... concerné par mon cas, et il m'a donné rendez-vous le soir même. Alors je me suis dit super, quelqu'un concerné par la cause, donc j'ai foncé. Et puis donc là je l'ai rencontré, et tout un autre personnage. Il m'a répété plusieurs fois: et vous êtes sûr que vous n'avez pas de preuves, parce que là ce sera parole contre parole, On avait eu le même échange au téléphone, mais il m'a posé au moins 4 ou 5 fois la question. Voilà, il a bien insisté. Mais vous avez jamais eu d'examen médicaux? Ben, je lui dis que ben non, sinon je serais pas là aujourd'hui. Les choses auraient déjà été faites. Et puis la phrase, c'est mais vous êtes vraiment sûr que vous n'avez pas de preuve que votre père vous ait défleuré? Et voilà, enfin, je me suis dit, bon, ben, c'était pas du tout le même personnage que j'avais eu au téléphone. Et bon, enfin, j'ai senti qu'en fait, enfin, mon affaire ne l'intéressait pas.
Oui, et puis, enfin, l'affaire l'intéressait pas, et puis, enfin, je dirais même le mot qu'il a choisi, quoi.
Tout à fait, oui.
Défleuré?
Oui.
Quand on est violé, on est défleuré. Oui. Ok. Très bien.
Et donc, on peut dire clairement que c'était une deuxième violence?
Oui.
Clairement, enfin, une maltraitance qui, ou par-dessus une maltraitance, finalement. Et, est-ce qu'après, tu t'es dit, bon, je laisse tomber, ou est-ce que tu as essayé de te rapprocher de gens qui étaient vraiment concernés ou qui s'affichaient clairement concernés par ce que tu appelais la cause, justement?
Je me suis rapprochée de l'association AIVI, Association Internationale des Victimes de l'Inceste. Et j'ai d'abord, en fait, navigué sur leur site internet qui est très bien fait. Et on a accès à un forum où les survivants et survivantes échangent sur de nombreux sujets. Et il y a également une rubrique sur les démarches en cas de, enfin, quand on veut porter plainte. Et donc, voilà. Donc, ça a été, oui, une bonne source pour moi. Et il y a même également des recommandations d'avocats. Donc je me suis dit, bon, ah, ça peut être pas mal pour éviter qu'on m'accueille comme le précédent. Donc j'ai contacté une avocate qui était recommandée sur Lyon. J'ai pris rendez-vous avec elle, j'ai été la voir et effectivement, elle avait déjà plaidé pour des affaires de pédophilie. Et donc elle était tout à fait consciente de ce qui est enduré au niveau psychologique et tout ça. Donc, je suis venue la voir, en fait, pour savoir un peu comment faire au niveau de ma démarche et savoir si elle pouvait me représenter. Mais bon, malheureusement, elle plaide que sur Lyon. Et comme mon affaire, si elle est jugée, le sera en région parisienne, puisque c'est le lieu où réside encore mon géniteur. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à trouver quelqu'un d'autre, un autre avocat, pour m'aider. Mais après, elle a eu une petite idée. Elle s'est dit que je pourrais peut-être accélérer, parce que moi j'étais partie sur donc écrire au procureur. Et elle s'est dit que peut-être que ça irait plus vite de porter plainte à la brigade de la famille. Pour ce faire, elle a essayé de voir avec avec l'association LEMA si c'était faisable. Mais comme j'avais pas dit que j'étais déjà en contact avec cette association, donc elle l'a appris, et quand elle l'a appris, elle l'a vécu, selon ses mots, comme une volonté de ne pas dire, pas lui dire toute la vérité, et elle l'a senti comme une trahison de ma part. Alors que moi, mon intention, c'est d'avoir toutes les informations possibles et faire la part des choses et d'éviter que les personnes aient une position commune sous prétexte qu'ils ne veulent pas se tirer dans les pattes. Mais voilà, dès lors qu'elle a su que j'étais déjà en relation avec une personne de l'association, voilà, elle a refuser poliment de m'aider. La 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 la.
Tu sais, ta stérilité, tout le monde s'en fout, autant que des bouts de verre coincés dans ton genou. Personne n'en a non plus grand chose à faire, que ce soit bizarre d'apprendre que ton père c'est ton frère. Dans la vie, c'est chacun pour soi. c'est chacun pour soi et personne pour toi. La 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 la. En vrai, ton overdose dans les toilettes du bistrot, au pire, ça perturbera juste l'apéro. Et tu peux pleurer parce que t'as vu tes enfants mourir. Non, tu sais, ça nous empêche pas de dormir. Tu sais, dans la vie, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi et personne pour toi. La 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 la. La 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 la. Alors avant de nous accabler de ta tristesse, demande-toi avant si ça nous intéresse. Et tu verras que bien souvent la réponse à ta question, bah c'est non. Tu sais, dans la vie c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi et personne pour toi. La 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 la.
Ah, décidément, on voit quand même que le parcours pour les victimes, c'est vraiment un parcours du combattant et de la combattante après. Et puis, encore une fois, on se retrouve dans un appareil judiciaire qui est froid. C'est-à-dire, on dit souvent que ce sont les juges qui sont froids, mais on se rend compte que les avocats sont pas beaucoup mieux et qu'en plus ils ont un certain ego, ce qui est quand même un petit peu problématique. Mais du coup, est-ce que tu as quand même réussi finalement à déposer cette plainte qui était nécessaire pour lancer la procédure?
Oui, au bout d'un moment, j'ai pris ma décision. Bah donc, j'ai rédigé un dépôt de plainte. J'ai bien détaillé les faits que j'avais bien en mémoire. Et voilà, j'ai envoyé mon courrier sous recommandé au procureur de la République. Voilà, et ça, c'était en avril 2016.
On va rappeler pour les auditrices et les auditeurs qu'en fait, il y a un léger souci que les gens ne connaissent pas en général, c'est le délai de prescription. C'est-à-dire qu'en fait, combien de temps tu avais pour pouvoir porter plainte avant justement qu'on rentre dans cette notion de prescription? Ce qui fait qu'en fait, ton bourreau se retrouverait tranquille parce que la justice refuserait même d'ouvrir un dossier.
Donc, pour des affaires de viol, puisqu'il y a une distinction entre agression sexuelle et viol, dans le cadre du viol, c'est 20 ans après la majorité, donc jusqu'à mes 38 ans. Et pour les agressions sexuelles, c'est 10 ans après la majorité, donc c'est jusqu'à 28 ans.
Et d'ailleurs, cette distinction, elle te paraît totalement illégitime.
Tout à fait absurde, en fait. Parce que que ce soit agression sexuelle ou viol d'un enfant, enfin, il y a dans tous les cas, enfin, comme un meurtre psychologique de l'enfant. Donc, pour moi, il n'y a aucune différence entre agression et viol.
Et on peut peut-être rappeler en parallèle à ça, c'est que justement, il y a des assos en ce moment qui militent aussi pour justement enlever tout délai de prescription parce que alors, je vais pas te faire de toi une exception, mais en fait il y a pas de schéma type, c'est-à-dire que les victimes, les survivantes, les survivants vont pas briser le silence inconsciemment avant leur 38 ans, quoi. Enfin, il y a quelque chose de non, il y a des gens pour qui ça va plus ou moins vite, il y en a pour qui c'est très très long, parce que je pense que c'est aussi selon l'environnement dans lequel on est, etc. Et que, enfin, voilà, c'est des choses qu'on peut rappeler aussi, quoi. C'est cette lutte pour abolir ce délai de prescription concernant les violences et les viols. Pardon.
Oui, c'est notamment un des combats de l'AIVI, qui lutte pour enlever cette notion de prescription, effectivement.
Et est-ce que du coup, avec l'AIVI, tu as participé à des groupes de parole ou à des... Parce que on sait que cette association a cette chance-là pour les survivantes et survivants d'offrir des espaces de dialogue. Et est-ce que tu as pu y participer? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a été bénéfique ou...
Alors oui, j'ai participé au groupe de parole. C'est pour moi quelque chose de... de bénéfique dans le sens où, dès la première réunion, dès le premier groupe, en fait, je me suis plus sentie comme une extraterrestre dans ma façon d'approcher les gens, dans mon fonctionnement de tous les jours. Donc, cette notion d'hyper-contrôle, ben, j'ai mis un sens là-dessus, justement. Et puis oui, ça permet de se dire ben, qu'en fait, oui, non, c'est normal que je sois comme ça et que malheureusement, d'autres sont comme moi, mais voilà. C'est vraiment une ambiance, enfin, on va dire chaleureuse, malgré enfin, le passé commun qu'on a. Les échanges sont vraiment sincères. Moi, quand j'arrive dans une réunion, on se dit bonjour. Et puis, quand une personne demande « ça va ben, », on sent vraiment que la personne s'intéresse vraiment à « si ça va ». Ce n'est pas une question posée comme ça. Mais la personne s'attend vraiment à une réponse et s'attend à ce qu'on lui dise « ça va, ça ne va pas voilà. ». Et elle est prête à écouter ce qu'on a à dire.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces groupes-là, ça t'amène aussi, enfin, ça vous amène aussi peut-être à un peu baisser, pas la garde, mais à finalement, justement, lâcher un peu de cet hyper-contrôle, quoi. C'est hyper, enfin, je pense que c'est hyper intéressant. Enfin, je sais pas si t'as envie d'en toucher un mot, mais...
Oui, bah, c'est un moment où on est, oui, on dépose un peu les armes, on parle, on dépose ce qu'on a à poser. Le fonctionnement de ces groupes, c'est que il y a un thème. Et à tour de rôle, chacun intervient sur ce thème-là. Et on dit ce qu'on pense par rapport au sujet, sans être coupé ou interrompu ou par les autres. On dépose ce qu'on a à poser. Voilà. Pas de jugement, rien.
De la bienveillance.
De la bienveillance.
Voilà. Et alors, peut-être, est-ce que tu peux juste donner un exemple de thème ou deux, je sais pas, mais enfin pour que peut-être les survivants, les survivantes qui nous écoutent peuvent se dire oui, enfin, c'est, je peux aussi y aller ou.
Oui, alors il y a par exemple, il y a eu mon besoin de justice où là, c'était un groupe qui m'a bien intéressée puisque j'étais dans ma démarche de vouloir déposer plainte. Il y a également les problèmes de la sexualité. Il peut y avoir des conséquences. Voilà.
Et ce sont des espaces protégés, dans le sens où ne participent que des survivantes et survivants. C'est-à-dire de façon à éviter un regard qui pourrait ne pas être très sain dans ces espaces-là.
Alors, il peut y avoir des survivants et survivantes, mais également des proches de survivants et survivantes, et un professionnel, voilà, avocat ou psychologue, voilà, puisque c'est important, je pense, de former les spécialistes qui soient au courant de.
Tu as eu deux mauvaises expériences avec deux avocats, et une avocate à l'avocat. C'est peut-être pas mal qu'ils se forment un peu à recevoir les victimes et à ne pas être juste dans le judiciaire et dans le. Et voilà, c'est. Oui, effectivement, c'est même très important, on l'a vu avec ce que tu racontais tout à l'heure. Et je vais te poser une question, mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Est-ce que, du coup, tu as eu besoin, toi, d'être aidé par un psychologue, une psychologue, pour dénouer un petit peu tout ça? Et est-ce que, du coup, l'association t'a orienté vers ou des choses comme ça?
Oui, moi je suis actuellement une thérapie, mais c'est pas l'association donc qui m'a donné son nom, c'est pas la IVI, je veux dire, c'est l'association d'aide aux victimes Lema qui m'a donné le contact sur ma région, sur ma ville. En fait, si je consulte aujourd'hui, tout est acté pour moi, enfin tout est clair avec le passé. Mais c'est moi dans un souci d'avancer et de me défaire des séquelles, en fait. Comme par exemple cet hyper-contrôle. Voilà.
Et est-ce que tu vois quelque chose à ajouter ou est-ce que tu veux qu'on en reste là, ce qui serait aussi tout à fait légitime?
Je peux également parler de la procédure. Donc oui, je disais que j'ai déposé plainte en avril 2016. où j'en suis maintenant, un an après, ben, toujours en attente que d'avoir une réponse. Mais entre-temps, j'ai été reçue par la gendarmerie de mon domicile, contre toute attente. Enfin, j'avais un a priori, justement, sur cette rencontre en gendarmerie, puisque j'avais lu que... j'en avais eu que de mauvais échos. Et, ben non, ça s'est bien passé. Le gendarme que j'ai eu en face de moi avait bah, malheureusement l'habitude de ce genre d'affaires. Il a été, oui, il a été bienveillant. Et donc, c'est un entretien qui a duré 3 heures quand même, assez long. Mais il est reparti du courrier que j'avais adressé au procureur. Et donc ensuite, on l'a détaillé, il a essayé on a essayé de détailler un peu plus pour un peu verrouiller les choses.
Pour que les gens se rendent compte, parce que je pense que tu dis détailler, c'est un terme un peu... C'est-à-dire qu'on t'a demandé d'expliquer les souvenirs que tu avais et de détailler donc les scènes et les violences subies.
Oui, mais je l'avais fait, j'avais bien été claire au niveau, dans mon courrier. Mais c'était pour peut-être préciser des lieux ou des circonstances ou vérifier ma taille à l'époque par rapport à une position que je décrivais. Voilà, c'était vraiment pour qu'il n'y ait pas de doute que je racontais n'importe quoi.
Vérifier que tu ne mentais pas, quoi, en fait. Faire une enquête.
Voilà. Donc, dans la foulée, 15 jours après, j'ai eu une expertise psychologique. Et là, par contre, c'était pas le même climat. Donc, la psychologue que j'ai rencontrée, je pense que c'était un rôle qu'elle voulait se donner, mais c'est quelqu'un d'assez froid et qui était complètement détaché, qui, je pense, essayait de me faire sortir de mes gonds pour... voilà. Et pour voir si j'étais pas une affabulatrice, mais bon, elle a pas réussi à m'énerver.
Ce qui fait que c'est quand même, c'est un environnement quand même souvent, c'est assez violent quand même, je trouve, quoi. Enfin, il y a 2-3 personnages comme ça que t'as rencontré pour aller vers la plainte, etc. Je me dis, faut être bien armé déjà soi-même pour pas flancher encore plus, quoi, parce que y a certaines personnes qui t'amènent pas à vouloir avancer, quoi. Je sais pas si t'as envie d'en parler, mais est-ce que tu le ressens vraiment à chaque fois comme une violence, cette froideur?
Oui, parce que ça coûte déjà beaucoup justement de briser le silence et de se dire que je vais porter plainte. Enfin, ça demande déjà beaucoup, beaucoup d'énergie. Et puis, derrière, en face, se retrouver à des murs, c'est déstabilisant. Et, je viens en tant que victime et j'ai pas envie qu'on m'accable encore plus. Enfin, c'est pas moi la coupable, en fait. Donc, c'est pas moi qu'il faut essayer d'enfoncer. Et puis donc ensuite, comme ma sœur a décidé de m'accompagner dans ma démarche, elle a également été entendue par la gendarmerie et elle a également eu une expertise psychologique. Voilà.
Donc là, on en est là de la démarche. Enfin, tu en es là. Parce que, c'était le « on » étant générique. Tu espères avoir une réponse rapidement des suites ou
Oui, j'espère avoir enfin une réponse et savoir si il y aura une instruction ou pas. Mais ben, j'en suis là.
Parce que pour être clair, pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture d'instruction judiciaire par le procureur de la République. Non. Il y a juste recueil des faits.
C'est ça.
Et ton géniteur, tu sais s'il a été confronté ou pas encore?
Justement, tant qu'il n'y aura pas d'instruction ouverte, il ne sera pas entendu. Donc,
C'est quand même quelque chose d'assez surprenant, c'est-à-dire qu'on demande aux victimes de porter finalement la violence judiciaire, parce qu'on peut parler de ça, dans ce que tu dévoilais, on peut parler qu'il y a des formes de violence quand même, peut-être maladroites, mais qui existent, Donc on demande aux victimes, mais par contre on ne confronte jamais le bourreau à savoir ce que lui aurait à dire tant que le procureur ne décide pas d'ouvrir une instruction. C'est quand même quelque chose d'assez surréaliste quand on y réfléchit, quoi. Voilà.
Donc il pourra être, enfin l'affaire pourra être classée sans suite et il ne sera jamais entendu. Et ouais, je trouve ça tout simplement hallucinant.
Ça l'est.
Et que dans tout ça, faut pas oublier ce délai de prescription. Qui finalement, elle a aussi encore un... Enfin, c'est un timer, quoi. Enfin, c'est-à-dire que faut... Enfin, y a pas non plus... T'as pas 10 ans devant toi, quoi.
Mais à partir du moment où j'ai déposé plainte, en fait, c'est la date de dépôt de plainte qui fait...
Ok.
Qui fait foi.
C'était bon à savoir. Et justement, on va rappeler pourquoi tu es sous pseudo, parce que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi les victimes d'inceste ou de viol font des témoignages, mais les font sous pseudo et en modifiant leur voix, comme c'est ton cas ce soir. C'est parce qu'en fait, ton bourreau pourrait porter plainte contre toi pour diffamation. Et là, dans ce cas-là, bizarrement, la justice, elle te mettrait directement en cause. C'est-à-dire que lui est protégé par le fait que le procureur de la République n'a pas ouvert d'enquête, pour l'instant, enfin, n'a pas ouvert de procédure, d'instruction. Mais par contre, si on venait à porter plainte contre toi pour diffamation, là, ce serait quasi immédiat, tu serais emmené dans un marasme judiciaire assez rapidement.
Oui, tout à fait.
Et c'est donc une arme souvent employée par les bourreaux. Parce que ça permet de déstabiliser encore plus les victimes et de garder une mainmise sur elles au travers de l'outil judiciaire.
Voilà.
Et je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, mais j'avais une question. C'est, on l'a peut-être déjà posée, vous me le direz. Mais pourquoi cette envie d'apporter ton témoignage aujourd'hui, ce soir, à la radio?
Pourquoi cette envie? Ben, tout simplement parce que entendre un témoignage, enfin voir plusieurs par la suite, m'ont fait avancer dans mon cheminement et m'ont conduit à briser le silence. Et donc je me dis que ben un de plus, ben, c'est ça de prix. Si ça peut servir quelqu'un, ne serait-ce qu'à aider quelqu'un à briser le silence ou alors ouvrir les yeux à quelqu'un d'autre. Enfin parce que vu le nombre de victimes d'inceste, de viol, enfin, il y a peut-être des comportements qu'on peut identifier. Et donc, peut-être qu'en m'ayant écouté, une personne pourra faire plus attention et repérer quelqu'un qui a besoin d'aide. Voilà. Après, c'est dans l'espoir de servir à quelqu'un d'autre.
Eh ben, on va te remercier. Ouais. Chaleureusement. Donc Ambre, merci pour ce témoignage. On mettra sur le blog de l'émission d'abord ton témoignage et ensuite les différents liens des différentes associations que tu as citées pour que les gens puissent aussi aussi y faire appel s'ils ont besoin. Et puis je ne sais pas si les gens le savent, mais on peut aussi sur le blog laisser des commentaires. Et on peut encourager les gens qui le souhaiteraient à laisser leurs commentaires, leurs témoignages, ou à contacter la causerie s'ils ont envie eux-mêmes de témoigner. Ce sera, je dirais pas avec plaisir, parce que j'aurais préféré ne pas faire ce témoignage ce soir, mais ce sera au moins utile. Voilà.
Et je voulais aussi rappeler que toute la playlist des différents morceaux que vous avez pu entendre et que vous entendrez encore au long de ton témoignage, ben c'est aussi une part de toi en musique, mais c'est aussi c'est une playlist que toi t'as choisie. Et que là encore, c'est peut-être une question en plus, mais est-ce que justement il y a des musiques qui oui, je pense que toutes les musiques que t'as choisies là, c'est parce qu'elles ont une résonance, mais justement, est-ce que la musique, est-ce que les arts, est-ce que certaines choses peuvent, là encore, se dire, je suis pas toute seule, il faut que j'avance, etc.
Oui, il y a forcément des musiques qui résonnent, et notamment la première de Mansfield Tia, où qui dit dans le monde du silence, je m'emmerde, et voilà, c'est effectivement, je m'emmerde, je dois parler, j'ai parlé. Et maintenant, j'avance.
voilà une excellente conclusion.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous êtes toujours sur La Causerie, Radio Canu. Nous venons d'écouter le témoignage d'Ambre. Merci à elle. Excusez-nous pour les divers problèmes techniques. Voilà, vous pouvez réagir à ce témoignage sur le blog. Donc, je rappelle, blogs.radiocanu.org/lacauserie ou par mail lacauseriecanu@gmail.com.
Et on se retrouvera donc la semaine prochaine, mais avant qu'on se quitte définitivement, je voulais vous rappeler une actualité, c'est que Sophie Perrin passe au tribunal aux 24 colonnes le 13 à 13h30 et qu'elle aurait besoin de soutien dans la salle, donc n'hésitez pas à vous rendre devant les 24 colonnes, c'est au Vieux-Lyon pour ceux qui savent pas où c'est. À partir de 13h, 13h30, voilà, pour soutenir Sophie. Et on se retrouve la semaine prochaine et vous retrouverez tout sur notre blog, n'hésitez pas. Salut à toutes et à tous.
Ciao.
Bonne semaine.
Ciao.
Bonne soirée.
Bye.
De loin.